ce que ça m'a permis de découvrir à travers les différents stages, c'est une vue assez bonne de ce qui me plaisait ou ce qui me plaisait pas. Aux événements de recrutement, on va te dire que tu vas faire des transformations digitales, des acquisitions, des trucs comme ça, mais au fond, tu comprends pas trop ce que ça implique. Le partenaire se retrouve devant le client à s'entendre dire qu'en fait, c'est pas du tout ça qu'on voulait savoir, quoi.
Bonjour et bienvenue dans Best Regards, le podcast qui a pour but de permettre aux jeunes et futurs diplômés d'aborder de façon sereine et éclairée le choix de leur premier emploi. Hello, c'est Laura. On se retrouve pour un nouvel épisode de Best Regards où on va aborder un métier dont on a déjà parlé, mais que vous nous avez beaucoup redemandé, à savoir le conseil en stratégie. Alors, on a déjà abordé ce secteur avec Carole en capsule 8, qui travaillait chez McKinsey. Aujourd'hui, on reçoit Thibaut, qui est Associate Consultant chez Bain & Company. Je vous rassure, les deux capsules sont loin de se ressembler. Avec Thibaut, on a plus parlé du rôle du business analyst dans un projet, on a parlé des différentes industries et des spécialités de chaque MBB. On a notamment parlé de la préparation à fournir pour passer les interviews et avoir l'offre tant espérée. Thibaut a fait beaucoup de stages avant de choisir la consultance en stratégie. Il vous expliquera donc dans ce podcast en quoi ça l'a aidé d'avoir fait autant de stages pendant ses études et ce qu'il en a retiré. Thibaut, que nous recevons aujourd'hui, est diplômé d'un master en Management Science de la LSM depuis 2019 et travaille actuellement chez Bain & Company depuis plus d'un an et demi. On espère que la capsule vous plaira autant que celle de Carole qui a atteint des sommets d'écoute incroyables. En tout cas, spoil, nous on a trouvé ça tout aussi passionnant et sympa à écouter. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve sur Instagram pour en discuter. Salut Thibaut, j'espère que tu vas bien et merci d'être avec moi aujourd'hui sur Best Regards.
Hello Ram, merci de m'accueillir et content d'être là.
Alors, tu travailles donc en conseil chez Bain depuis un an et demi, mais avant de rentrer là-bas, tu as fait énormément de stages pendant ton master. Donc, tu as fait un stage chez CBC Bank en tant que marketing interne, chez Pulse Europe en tant que quality management interne et chez Transparency International Belgium en tant que communication strategy interne. Tous ces stages sont assez loin du conseil en stratégie, mais visiblement, tu t'es quand même intéressé par le secteur du conseil puisque tu es resté pendant 3 ans chez LSM Conseil, qui est une junior entreprise gérée par des étudiants qui fait du conseil en management et en ingénierie. On sait que le conseil en stratégie, c'est une voie que beaucoup d'étudiants envisagent pendant leurs études et je propose donc que tu nous expliques tous ces éléments, donc comment finalement tu as convergé vers ce choix d'aller travailler en conseil en stratégie chez Bain.
Oui. Alors, si tu veux, le fil rouge de mon cheminement, c'est l'idée qu'en tant que student, on a en fait énormément d'opportunités d'aller déjà voir ce qui se passe sur le terrain, à quoi ressemble le monde professionnel, etc. Mais aussi d'apprendre à mieux se connaître et à découvrir ce qui te plaît vraiment toi personnellement, quoi. Et alors, ça permet de tirer les premières conclusions de un peu « What should I do with my life ?» Pour trouver un bon début de carrière, c'est un processus itératif, enfin, au final un processus d'essai et d'erreur. Et le fait de commencer ce processus quand tu es étudiant versus le commencer quand tu sors tes études, pour moi, c'est ça un peu la formule magique, parce que ça te permet justement d'accélérer l'apprentissage et du le jour où tu dois trouver ce premier job, bah, tu as déjà une base d'expérience sur laquelle te baser, fatalement. Et donc, pour moi, c'est ça le fil rouge. Et du coup, je vais un peu détailler le cheminement, le mien en guise d'illustration. Pour moi, tout a commencé, et tu le mentionnais, c'est quand j'ai rejoint LSM Conseil. Donc ça, c'était au début de Bac 2. Donc LSM Conseil, tu l'as mentionné aussi, mais c'est un cabinet de consultance où tous les membres sont des étudiants et réalisent des missions de consultance dans leur domaine d'études pour des vrais clients, mais qui sont des services qui sont payants, quoi. Et donc, en fait, du coup, ça fonctionne comme une vraie entreprise, d'où le terme junior entreprise. Et d'ailleurs, c'est un concept qui existe partout en Europe, dans toutes les business schools belges francophones, et je pense dans la plupart des business schools belges néerlandophones. Et moi, j'ai commencé par là parce que je trouvais ça assez cool de déjà en bac 2, pouvoir faire du concret, d'être catapulté face à un client. Et au final, j'y suis resté 3 ans et c'est clairement l'expérience qui m'a apporté le plus. Donc après LSM Conseil, en fin de bac 3, j'ai fait un stage chez CBC, donc la banque. Et j'avais envie de voir un peu ce que ça donnait, une expérience dans une structure plus corporate, quoi. Après ça, en fin de master 1, j'ai fait un stage chez Pulse Europe, qui est une PME à Leuven, où là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai implémenté la norme ISO 9001, qui est une norme de management de la qualité. Et ce que ça m'a permis d'avoir, et ce que je recherchais, c'était de pouvoir mener mon propre projet et aussi découvrir aussi en fait l'environnement du PME qui est différent des LSM Conseil ou de CBC par exemple. Et alors, mon dernier stage avant de rejoindre Bain, c'était mon stage de Master 2, donc qui était un peu plus long, où j'ai fait un stage chez Transparency International Belgium, qui est la branche belge d'une ONG de lutte contre la corruption, où là, ce que j'ai fait, c'est une analyse un peu plus stratégique de leur communication, leur positionnement en tant qu'ONG. Et j'ai fait ça parce que je voulais voir si ça allait me plaire, enfin, de bosser sur un sujet plus sociétal, qui est la lutte contre la corruption, et aussi dans une beaucoup plus petite structure. Et donc, en fait, si on prend un peu toutes ces expériences-là, ce que ça m'a permis de découvrir à travers les différents stages, qui sont vraiment super différents les uns des autres, c'est une vue assez bonne de ce qui me plaisait ou ce qui ne me plaisait pas, pour en arriver au final à la conclusion que ben, la consultance en stratégie, c'était une bonne next step pour moi. Et donc, de faire ce choix d'aller vers la stratégie en connaissance de cause, versus le faire ben, parce qu'en fait, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et je faisais la stratégie par défaut, quoi. Maintenant, je vais vite faire revenir sur LSM Conseil. C'est assez important parce que ça m'a permis de découvrir deux éléments qui manquent clairement quand tu fais des stages en tant qu'étudiant. Le premier, c'est le fait de s'engager dans un projet plus au long terme et vraiment développer une vision ou une ambition, non plus pour toi-même en tant qu'employé, entre guillemets, mais vraiment pour l'organisation en tant que telle. Et le deuxième élément, c'est d'apprendre à gérer une équipe. Et c'est là que va intervenir une expérience comme LSM Conseil ou, de manière plus large, des expériences en association d'étudiants. Parce que, en plus d'être un bagage professionnel vraiment de dingue au niveau des soft skills que tu développes, etc., ça permet d'expérimenter ce qui va se passer quand tu vas rester dans une organisation et que tu vas évoluer avec elle. Moi, c'est un truc que j'ai trouvé super épanouissant. Parce qu'à partir du moment où tu peux toi-même influencer l'avenir de l'organisation, en fonction de ce que tu penses être le meilleur ou le moins bon, tu rentres vraiment dans un tout autre level et moi, c'est un truc que j'ai vraiment hâte de pouvoir retrouver à nouveau. Et après, le deuxième volet que je mentionnais, c'est le côté gestion d'équipe. Donc, à ma deuxième année chez LSM Conseil, donc en bac 3, j'étais manager d'un département de 10 personnes. Et alors, à ma troisième année, j'étais président et donc j'avais entre guillemets 50 personnes à gérer. Et c'est un truc que tu vas, bon, fatalement pas retrouver dans les stages, mais surtout pas retrouver dans le milieu professionnel dans les 2-3 premières années. Et le fait de l'expérimenter en tant qu'étudiant, cette gestion d'équipe, c'est super intéressant parce que ça te permet aussi de savoir si après c'est un truc que tu veux retrouver ou pas. Et du coup, tu peux aussi faire tes choix en fonction, quoi.
Ben, c'est super cool d'avoir ton expérience pendant tes études, tes stages, comme tu disais, et aussi ton expérience chez LSM Conseil. C'est assez cool d'avoir ton point de vue là-dessus et on voit que ça t'a aidé en tout cas à te faire une idée de ce que tu aimais et ce que tu aimais pas, comme tu le disais. Et donc maintenant, je propose qu'on s'intéresse à ton job actuel. Donc depuis plus d'un an et demi, tu es associate consultant chez Bain & Company. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton rôle d'analyste dans un projet de stratégie?
Ouais, c'est important d'en parler parce que souvent, les gens enfin, envisagent la possibilité de se tourner vers la stratégie parce que sur papier, le job vend du rêve. Aux événements de recrutement, on va te dire que tu vas faire des transformations digitales, des acquisitions, des trucs comme ça, mais au fond, tu comprends pas trop ce que ça implique. Et donc, pour expliquer le rôle d'un analyste, ou d'un associate consultant, ou quel que soit le terme de la boîte, je pense qu'il faut d'abord un peu expliquer les caractéristiques d'un projet en stratégie et puis après la structure d'une équipe. Donc les projets qu'on va faire, pour moi, ils vont avoir vraiment deux caractéristiques clés. D'abord, c'est qu'ils vont être complexes. Donc c'est pas nécessairement compliqué, mais c'est complexe dans le sens où il y a plein d'éléments qui sont interconnectés. Et donc il y a énormément de questions à se poser pour que le contenu que tu produises, d'abord prenne en compte tous les éléments et surtout répondre exactement à la question qui est posée pour éviter que ben, le partenaire se retrouve devant le client à s'entendre dire qu'en fait, c'est pas du tout ça qu'on voulait savoir, quoi. Et la deuxième caractéristique, c'est le fait que c'est fondamentalement nouveau pour tout le monde. C'est-à-dire que même les consultants seniors ont probablement jamais fait un truc exactement pareil. Et les clients, pareil. Donc c'est aussi nouveau pour les clients et c'est aussi pour ça qu'ils font appel à des consultants. Et du coup, pour qu'on puisse amener les clients à prendre des bonnes décisions, il y a énormément de connaissances à produire. Donc typiquement, ça va être des analyses à faire sur Excel, par exemple. Et en plus de produire ces connaissances, il va falloir expliquer ces connaissances aux clients au fur et à mesure qu'on les construit. Et ce qui implique en fait que tu as énormément de documents à délivrer. Donc typiquement, c'est des slides où tu vas avoir des graphes qui expliquent, je sais pas moi par exemple, l'impact du projet ou de l'acquisition sur la profitabilité de l'entreprise, par exemple. Donc ça c'est au niveau du projet. Et puis après, tu as la structure de l'équipe, où tu vas avoir quatre niveaux. Donc d'abord, tout en haut, fatalement, tu as les partners, ça c'est les vrais experts, ils ont déjà bossé avec les clients, ils connaissent le secteur, etc. Et c'est eux qui vont guider les analyses qu'on va faire. Ensuite, en dessous, tu as le ou la manager qui a une certaine expérience dans le domaine et qui va vraiment gérer l'équipe au day-to-day. Le troisième niveau, c'est les consultants qui ont quelques années d'expérience et qui vont chacun ou chacune gérer une sous-partie du projet. C'est avec ces personnes-là que, quand tu commences en consultance, tu vas te retrouver. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que junior, tu vas tout le temps être mis en binôme avec quelqu'un d'un peu plus senior que toi. Et donc maintenant, si tu ramènes les deux éléments ensemble, donc les caractéristiques du projet et la structure de l'équipe, ce que ça implique, c'est que tout ce qui est complexité, donc comprendre ce qui se passe et comprendre comment on peut résoudre le problème, ça c'est le volet pour les managers et les partenaires. Et donc eux vont passer beaucoup de temps en réunion pour discuter avec les clients, pour guider l'équipe, etc. Mais du coup, ils ne vont pas eux-mêmes produire tout ce contenu. Et donc tout ce volet connaissance à créer pour le client, ça va être pour les consultants et les associate consultants qui vont s'en charger. Et c'est eux qui vont faire les modèles Excel, qui vont interviewer les experts, qui vont poser les questions détaillées aux clients et qui vont ensuite produire les slides. Et donc maintenant, si on arrive à la position de l'analyste, son rôle, si tu veux, et vraiment sa valeur ajoutée dans le projet, ça va être de correctement traduire les instructions qu'il va recevoir de son superviseur pour analyser l'information qu'il va recevoir de son client, typiquement en faisant un modèle Excel, pour ensuite produire des slides qui vont synthétiser le tout. Et donc, si tu veux, la majeure partie du temps, c'est tu participes à des réunions pour bien comprendre la question qui est posée, ensuite tu vas débriefer avec ton consultant pour tiens, mais comment est-ce qu'on va faire l'analyse, tu vas faire ton analyse, d'office à un moment ou à un autre, tu vas bloquer sur un truc, tu vas discuter de ce sur quoi tu bloques avec ton consultant, tu vas terminer l'analyse, tu vas discuter avec ton consultant ou ta consultante de comment visualiser ça de la meilleure manière, et puis tu vas en faire une slide pour la présenter. Donc ça, c'est un peu le rôle. Mais bon, dit comme ça, du coup, ça n'a pas l'air super excitant et on s'éloigne pas mal du discours de « tu vas avoir un impact sur le monde que tu peux entendre en événement de recrutement ». Et au fond, c'est assez logique. Et donc, j'ai quand même envie d'appuyer sur trois trucs qui font que, au-delà de cet aspect très transactionnel que j'ai décrit, l'expérience reste intéressante. Pour moi, la première, c'est que même en bas de l'échelle, tu te retrouves vraiment catapulté face à des sujets super intéressants qui impliquent souvent des grosses transformations dans les entreprises. Et tu te retrouves du coup plus ou moins au premier loge de ce qui se passe. Ensuite, le niveau d'exigence est super élevé. Et donc, en fait, tout le monde va attendre de toi que tu produises un travail qui est irréprochable. Et le bagage que tu vas en retirer de ça, c'est un niveau d'efficacité, de rigueur, de capacité à très rapidement comprendre un nouveau problème qui, en fait, va t'accompagner toute ta vie après. Et après, pour moi, le troisième élément, c'est qu'en fait, ça change très vite. C'est-à-dire, tant les sujets changent très vite, parce que les missions en stratégie sont plus courtes que, par exemple, les missions en implémentation qui vont durer des fois un an, mais aussi ta position change très vite. Et donc, au final, tu vas assez vite te retrouver toi-même à participer aux discussions, à discuter, à décider toi-même de comment faire l'analyse, comment la présenter, etc. Et après même un an et demi, deux ans, tu vas commencer à toi-même coacher quelqu'un de plus junior. Et donc, c'est un tout autre volet du job qui s'ouvre, qui aurait peut-être pris un peu plus de temps si tu avais été dans un autre type de fonction.
Bah, c'est super intéressant, t'as super bien clarifié, je pense, les positions de tout le monde et toutes les synergies qu'il y a entre les personnes, je trouve que c'est hyper intéressant. Et je propose maintenant qu'on parle plus du sujet donc des projets et des industries. Toi, en un an et demi, t'as été staffé sur plusieurs projets dans toutes sortes d'industries, sauf en private equity. Sur les sites des employeurs, on voit toujours un onglet « industrie » et si on regarde et qu'on clique, on voit qu'en fait, finalement, ils travaillent dans toutes les industries. Mais j'imagine que chaque firme a ses industries de prédilection où ils sont meilleurs. Pour donner un exemple, dans la capsule de Carole qui travaille chez McKinsey, elle parlait beaucoup du secteur public. Est-ce que tu sais un peu nous faire une overview de qui fait quoi ?
Oui. Donc de manière générale, McKinsey va être très fort pour tout ce qui est secteur public. Là où Bain, par exemple, fait très 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 peu de secteur public. Mais Bain va être très fort pour tout ce qui est private equity. Et à ma connaissance, BCG est aussi très fort sur le digital. Maintenant, ce que je sais sur la Belgique, Bain fatalement, ça je sais un peu mieux, Bain fait beaucoup de CP, donc tout ce qui est consumer product. Ils font beaucoup de ce que je vais appeler industrie lourde et beaucoup de private equity. Mac, en Belgique, fait beaucoup de public fatalement, avec les institutions européennes entre autres, mais aussi beaucoup de consumer product. BCG, je pense, fait beaucoup de utilities, donc par exemple tout ce qui est secteur de l'énergie, infrastructure, et aussi tout ce qui est financial services, donc en gros ça va être les banques, les assurances, etc. Et puis après, fatalement, il y a aussi des domaines qui ne sont pas couverts en Belgique, donc, parce qu'en fait, juste, on n'a pas d'industrie dans ces domaines-là. Donc, tu as ce qui est automobile, transport, enfin, si tu vas, si transport, tu vas avoir éventuellement Brussels Airlines, mais ça va être tout. Tech, on n'a pas vraiment de boîte tech. Et des trucs comme oil and gas, je t'en marre un peu, quoi. Et donc, en plus des différentes industries, il y a aussi ce qu'on appelle les capabilities, donc en fait le sujet du projet. Est-ce que ça va être de la stratégie? Est-ce que ça va être de la supply chain? Est-ce que ça va être du merger and acquisition? Est-ce que ça va être de la cost transformation? Et là, de nouveau, on va retrouver des spécialités. Et du coup, quand on parle de type de projet, en fait, tu vas un peu obtenir une vue en matrice où les projets se retrouvent toujours au croisement de ces deux axes, donc une industrie et une capability. Donc moi, par exemple, j'ai fait des cost transformation dans le secteur des matériaux de construction et puis dans le secteur de la chimie. J'ai participé à une stratégie de marché pour une boîte de consumer product. J'ai participé à un projet d'organization design pour une boîte en pharma. Et maintenant, je fais de la stratégie de développement durable pour un fonds en private equity. Et le type de projet, pour moi, c'est clairement une composante importante. Et je pense que ce qu'il faut savoir avant de rentrer en consultant, c'est que au début, on a en fait relativement peu de contrôle sur le type de projet qu'on va faire. D'abord parce qu'il y a la manière dont se passe le staffing. Par exemple, chez Bain, le principe, c'est que tu vas émettre des préférences en fonction de tes intérêts, en fonction des compétences que tu veux développer. Et puis après, on va essayer de te mettre sur quelque chose qui correspond à ces critères. Mais bon, s'il n'y a pas exactement ce que tu recherches, on ne va pas non plus te laisser poireauter pendant quelques semaines pour attendre le projet. Et du coup, ben, on va te staffer sur la meilleure alternative possible. Et alors, la deuxième raison pour laquelle tu n'as pas trop de contrôle là-dessus, c'est qu'au début, en fait, tout simplement, tu ne sais pas trop ce qui te plaît et tu ne sais pas trop ce qu'impliquent les différents types de projets. Et enfin, c'était mon cas en tout cas. Et du coup, quand tu prends un peu ce qu'on te donne et tu croises les doigts et tu espères que le projet soit cool, quoi. Mais là, en fait, on en revient du coup sur l'importance de procéder par essai-erreur. Et au final, le prix à payer pour mieux comprendre le monde de l'entreprise, ce qui est cool, ce qui est intéressant, bah, c'est aussi d'expérimenter les aspects moins cool et les aspects moins intéressants. Et au final, c'est normal et ça fait partie du processus.
C'est ça. Et alors, du coup, j'imagine qu'on s'est un peu deviné ta réponse, mais est-ce que tu conseillerais à nos éditeurs de postuler dans les boîtes qui sont principalement actives dans les industries qui les intéressent? Donc, quelqu'un qui sera intéressé par le secteur de l'énergie, par exemple, est-ce qu'il devrait plutôt postuler chez un BCG qui est plus actif là-dedans? Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Ouais. Pour moi, tu peux le faire s'il y a deux critères qui sont remplis. Enfin, au final, tu fais ce que tu veux, mais je le recommanderais si tu as deux critères qui sont remplis. D'abord, c'est si jamais tu es certain que c'est exactement ce que tu veux faire. Et aussi, si tu es certain qu'il y aura suffisamment de projets dans ce domaine pour que tu ne te retrouves pas à devoir attendre et faire plein de projets qui te font chier pour attendre le Saint Graal, quoi. Donc, par exemple, moi, pour le moment, je bosse en sustainability. Et c'est trop bien parce que c'est ce que je voulais faire depuis le début. Mais il m'a fallu 1 an et demi pour pouvoir faire ce genre de projet. Et du coup, par exemple, moi, c'est quelque chose aussi que je clarifie souvent auprès des candidats qui veulent venir chez Bain, par exemple, pour faire de la sustainability. C'est qu'aussi, il faudra faire beaucoup d'autres choses. Et moi, ce que j'observe typiquement, c'est que bon, y a quelques cas particuliers où je pense que c'est intéressant d'aller dans une boîte ou l'autre pour un type d'industrie. Par exemple, chez Bain, c'est les gens qui veulent faire des projets en private equity. Donc, on fait beaucoup de due diligence pour les fonds en private equity. Et souvent, alors, c'est dans l'espoir de transférer vers ces clients-là après quelques années. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui se fait beaucoup chez Mac, parce que Mac fait vraiment beaucoup de services publics, quoi. Donc, après, si tu as un doctorat en chimie ou si tu as fait 5 ans chez Danone, alors bon, c'est logique de faire son choix en fonction de l'industrie. Mais je pense que si jamais tu sors d'une business school, et qu'au final, tu as une vision assez limitée sur ce que tu veux faire, de toute façon, tu vas commencer comme généraliste. Et c'est une bonne chose parce que ça te permet de te construire justement une vue large sur ce qui existe et de faire ce choix de te spécialiser dans un secteur un peu plus tard et aussi de le faire en âme et conscience, quoi.
Ouais, c'est ça, ok. Alors, sur un tout autre sujet, donc on va parler maintenant de préparation. On sait que la préparation pour les interviews, elle est primordiale dans le domaine du conseil en stratégie. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu t'étais préparé et si tu as des tips pour nos auditeurs?
Ouais, effectivement, parce que clairement, ça prend du temps. Il faut pas négliger l'effort. Et je vais pas trop m'attarder sur toutes les questions de motivation, comment se préparer aux questions fit, comme on appelle ça, qui vont survenir en interview. Mais je pense que le plus intéressant à aborder, ça reste les case interviews, parce qu'au final, c'est ça le nerf de la guerre. Donc les case interviews, pour ceux qui savent pas vraiment, c'est un format de mise en situation. D'une situation business où ton intervieweur va te donner un énoncé. Ben tiens, par exemple, le client X est face à telle situation et il aimerait bien améliorer ses profits. Qu'est-ce que tu ferais? Et en fait, c'est assez particulier parce que c'est un mode d'interrogation qui est vraiment diamétriquement opposé à ce que tu vois à l'UNIF. C'est-à-dire qu'à l'UNIF, d'abord, tu emmagasines la connaissance pendant ton blocus, puis tu te retrouves face à la question, souvent avec une bonne description de tous les éléments du contexte. Tu réfléchis à comment utiliser ta connaissance, contenu du contexte, et puis tu réponds. Et les cases, c'est vraiment l'inverse, parce que tu te retrouves d'abord face à la question, avec aucune connaissance préalable, et puis tu vas devoir réfléchir aux connaissances que tu vas devoir acquérir pour répondre à la question. Enfin, ça dure 30 minutes, mais en gros, tu poses des questions. Et ensuite, tu vas développer cette connaissance en discutant avec ton intervieweur, qui lui a toutes les informations, mais qui va que te les donner si tu poses les bonnes questions. Et puis après, tu vas répondre à la fin du case. Donc, décrit comme ça paraît assez simple, mais c'est pas facile parce que l'exercice mental est vraiment complètement inversé à ce à quoi on est habitué. Le meilleur conseil, en fait, c'est un conseil qui est assez simple, c'est il faut s'entraîner. Et surtout, il faut faire un max de cases qui reproduisent au mieux les conditions que tu vas avoir en interview, c'est-à-dire faire un case avec quelqu'un. Et donc, la personne, t'as un pote qui se fait passer pour un intervieweur, qui a les documents devant lui et qui te fait passer le case. Et alors, le mieux, c'est si jamais tu arrives à le faire avec des gens qui ont déjà fait des cases avant, encore mieux, des gens qui ont déjà eu des offres en consultance avant, et alors eux vont pouvoir te donner du bien meilleur feedback. Mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment de secret, quoi.
Ok, bah c'est déjà super intéressant. Je pense qu'il y a déjà de quoi faire avec ça. Et donc, tu viens de nous donner plein de tips, mais dans notre podcast, on finit toujours avec la même question. As-tu un conseil plus général alors, peut-être pour nos auditeurs?
Oui, et je vais répondre d'abord en répondant à une question qui n'a pas été posée, qu'on n'a pas abordée, c'est, bah, tiens, est-ce que fondamentalement, je recommanderais le job de consultant en stratégie? Et moi, clairement, je recommanderais à toute personne qui est intéressée et qui a peut-être un cheminement un peu similaire au mien, qui se pose des questions, qui veut comprendre exactement ce qui lui plaît. Mais une des raisons super importantes pour laquelle je recommanderais le parcours en stratégie, et peut-être plus spécifiquement Ben, c'est par rapport aux gens que tu vas rencontrer en fait. Parce que si jamais tu dois passer quand même une bonne partie de ton temps en semaine à travailler avec des gens, autant que ce soit des gens avec qui t'aiment travailler, et autant que les gens qui rentrent en même temps que toi dans la boîte, ça puisse aussi devenir tes potes, quoi. Et du coup, le conseil que j'ai envie de donner, c'est ne pas oublier que quand tu passes des interviews, non seulement la boîte te teste toi, mais t'es toi aussi en train de tester la boîte. Et c'est un truc un peu bateau, et je pense qu'on le dit assez souvent, mais c'est vraiment important parce que, au final, passer des interviews, c'est une bonne manière pour avoir un proxy sur quelle est la culture, comment sont les gens, et est-ce que si un jour je me retrouve coincé dans un avion avec la personne qui m'a interviewé, est-ce que ça va me faire bader parce que j'arrive pas à lui faire la conversation, ou est-ce que c'est quelqu'un à qui je veux bien m'amuser et ça va être un bon moment, quoi. Et donc, ne pas oublier que, voilà, non seulement les boîtes vous testent, mais vous pouvez tester les boîtes aussi. C'est un facteur, je pense, qui est important à prendre en considération quand on fait son choix.
Ok, bah top, super. Merci beaucoup Thibaut. À bientôt.
Avec plaisir, merci.
Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. On espère que ce podcast vous a plu et que vous aurez appris des choses sur le conseil en stratégie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager à vos potes et de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui nous permet de nous faire connaître. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram pour être tenu au courant des dernières nouvelles. Et on se retrouve dimanche prochain pour un épisode avec Maxime où on parlera du métier d'Equity Research Analyst. À la semaine prochaine!